Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Entre fin septembre et fin octobre, environ 350 parties civiles se sont succédées à la barre. Dans Code Source, nous avons choisi d'évoquer une petite partie de ces témoignages, scène de crime par scène de crime. Aujourd'hui, le Bataclan, où un commando de trois terroristes a fait 90 morts et des centaines de blessés. Avec nous, dans Code Source, les trois journalistes du service police-justice du Parisien qui se relaient pour couvrir cette audience historique, Pascal Aigret, Louise Colcombé et Timothée Boutry. Le vendredi 17 septembre, un policier de la brigade criminelle qui a supervisé les constatations vient raconter comment ce travail a été effectué. Timothée Boutry, il explique que la méthode utilisée était celle qui s'applique au crash aérien.
Il dit que la scène est évidemment totalement incroyable avec autant de corps enchevêtrés. Et donc il faut appliquer une méthode particulière puisque le Bataclan, c'est une très grande scène de crime. Donc il y a beaucoup de zones à explorer, à passer au peigne fin. Et donc le Bataclan va être divisé en 11 zones où chaque enquêteur va récupérer tous les indices qu'il peut. Et c'est uniquement grâce à cette méthode qu'ils vont pouvoir récupérer toutes les informations nécessaires pour leur enquête.
Le policier ne montre pas de photos de la scène de crime, mais sur les écrans, il projette les images d'une visite virtuelle du Bataclan après sa rénovation en énonçant les noms de chacune des victimes à l'endroit de leur découverte. Timothée Boutry, à un moment, ce policier de la brigade criminelle diffuse un extrait sonore de l'assaut du Bataclan par les terroristes.
Oui, en fait, il y a le dictaphone d'un spectateur du concert qui a enregistré toute la séquence, en fait. On a le début de l'attaque, tout ce qui se passe à l'intérieur, jusqu'à l'assaut. Enfin, vraiment, c'est la bande-son de l'attentat du Bataclan. Et en fait, il ne va diffuser qu'une vingtaine de secondes qui correspond au moment où les trois terroristes font leur entrée dans la salle de spectacle. Alors, au départ, il y a de la musique, c'est la chanson Kiss the Devil de Eagles of Death Metal. Et puis, on entend des bruits, tac, 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 tac. C'est un son très, très clair d'armes automatiques. On sent que la musique s'arrête, il y a le lampli qui se met sur le Larsen. Et puis, voilà, on a le début de ces rafales de tir. Et ça dure que 20 secondes, mais on imagine ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer, et c'est assez effroyable parce qu'on sait que bah voilà, chaque rafale, c'est autant de corps qui tombent par terre.
Pascal Aigret, le mercredi 6 octobre, vous écoutez le témoignage de Clarisse, 30 ans, elle avait 24 ans ce soir-là, elle terminait ses études, et au moment de l'attaque, elle allait sortir du Bataclan.
Où elle allait sortir du Bataclan avec un copain parce qu'ils étaient étudiants, ils avaient emporté une petite fiole de whisky pour boire pendant le concert et ils sont à sec et ils veulent sortir chercher des bières. Et à ce moment-là, ils sont dans le vestiaire et elle voit le regard du videur. Elle dit « Les yeux ne mentent pas, il y avait la mort dans ses yeux et en fait, c'est l'arrivée des tireurs ». Elle comprend tout de suite qu'il faut fuir. Elle part vers la fosse à toute vitesse dans une sorte de course effrénée et de sidération.
Un peu plus tard, Clarisse se réfugie au deuxième étage.
Elle pousse une porte, enfin avec difficulté, parce que quelqu'un résiste derrière et finit par ouvrir. Et en fait, on est vraiment au tout début de l'attaque et elle s'engouffre dans ce qu'elle pense être un échappatoire et qui est en fait un escalier qu'elle grimpe et en haut, elle se retrouve dans une loge fermée, un piège. Elle dit « Je ne veux pas mourir dans cette loge en plaque au plâtre pourrie ». Alors ça fait un peu sourire la salle alors qu'on entend quelque chose de très dur. Et elle grimpe sur les toilettes et elle se met à défoncer à coups de poing avec furie le faux plafond. En fait, Clarisse, avec cette énergie qu'on sent à la barre, elle a une fraîcheur aussi assez incroyable. Elle a ouvert la voie ce soir-là des combles à des dizaines de personnes qui vont grimper derrière elle, qu'elle aide au début à monter, et tout le monde va se cacher dans les combles en attendant l'issue de la prise d'otage.
Louise Colcombé, parmi les témoignages, le même jour, il y a celui d'Edith, 43 ans. Edith s'était cachée au balcon, sous des strapontins, recroquevillée en position fœtale. Elle détaille ce qu'elle aperçoit et ce qu'elle entend.
Elle est plaquée au sol et elle est toute recroquevillée, donc elle n'a plus que Louis en fait. Elle aperçoit les chaussures en fait d'un des terroristes qui monte à l'étage et qui de là en fait va tirer au coup par coup sur la fosse. Elle, elle a cette odeur de sang et de poudre qui la prend au nez, que tous décrivent très bien, mais elle aussi. Et là, c'est terrible parce qu'elle raconte ce coup par coup et voilà, elle entend un gémissement. Elle dit un gémissement, une supplication, c'est un tir. Un téléphone qui sonne, c'est un tir. Un cri, un tir. Voilà, il y a un côté inéluctable et elle se dit on est foutu, on va jamais s'en sortir.
Edith n'a pas été blessée physiquement, mais elle décrit à quel point sa vie a été bouleversée par l'attentat.
Oui, en fait, elle a pensé pendant toute l'attaque qu'elle allait mourir, hein, clairement. Elle a été protégée aussi en partie par un inconnu, mais elle se dit « je devrais aller bien, puisqu'en fait, je suis pas blessée ». Et elle se rend compte qu'en fait, ça va pas du tout. 9 jours après l'attentat, elle a envie de se jeter sous les roues d'une voiture. Elle se met à boire, à prendre des médicaments. Donc, ça va avoir des répercussions énormes sur sa vie. Sur sa vie de maman, elle dit qu'elle devient une mère fantôme, qu'elle n'arrive plus à rendre l'amour qu'elle devrait autant à son mari. Elle va perdre son boulot, ce qui va entraîner des conséquences financières, un déménagement de Paris. Elle avait souhaité avoir un deuxième enfant, elle était déjà maman, elle tombe enceinte et en fait elle se dit je peux pas imposer ça à une mère fantôme, un deuxième enfant, et donc la mort dans l'âme, comme elle l'a dit à la barre, elle a avorté.
Le lendemain, Pascal Aigret, vous écrivez un article sur les témoignages des gueules cassées du Bataclan. D'abord celui de Pierre Sylvain, 48 ans, le soir du massacre. Lui et son amoureuse Hélène, ils étaient ensemble depuis 2 mois, ont tous les deux été touchés à la tête.
Pierre-Sylvain et Hélène sont dans la fosse au moment où les terroristes arrivent. Au départ, comme tout le monde, ils se couchent. Et à un moment donné, les lumières se rallument. Il comprend qu'il y a un des terroristes qui passe au coup par coup. Ce qu'on apprend avec le témoignage de Pierre-Sylvain, c'est la détermination des terroristes à tuer, puisqu'en fait, ils visaient les têtes. Ce qu'on apprend aussi, c'est ce que font les balles de Kalachnikov. Ce sont vraiment des ravages particuliers. Ce sont des blessures de guerre. Ce sont des balles qui fracassent tout, qui laissent des résidus de limaille, de fer, qui peuvent ressurgir des années après. Et ce qu'on voit à travers lui, parce qu'il arrive, malgré sa propre blessure, à sortir Hélène du Bataclan, ils vont survivre tous les deux. Ils vont se reconstruire, subir des dizaines d'opérations. En fait, ce qu'on apprend, donc, c'est la force incroyable de l'instinct de survie.
Louise Colcombé, autre gueule cassée à la barre ce jour-là, Gaëlle. Gaëlle se souvient qu'elle entendait des « Oh mon Dieu » au passage de son brancard.
Gaëlle, elle a été blessée dans les tout premiers tirs parce qu'elle est au bar avec son amoureux de l'époque, qui est d'ailleurs décédé très vite. Et en fait, elle sent pas sa propre blessure au départ. En fait, elle veut se dégager parce qu'elle est enchevêtrée au milieu des corps parce que tout le monde fait semblant d'être mort. Et elle veut dégager une chaussure. En fait, elle sent qu'en fait, elle a plus de joues en fait. Et donc voilà, elle comprend qu'elle a plus de visage. Donc on l'évacue, mais elle s'est pas vue bien sûr. Elle entend ces « Oh mon Dieu » qui sont glaçants. Et ce terme de gueule cassée, c'est la première chose qu'elle entend en se réveillant quand le chirurgien la regarde et lui dit voilà, vous êtes ce qu'on appelle une gueule cassée. Gueule cassée, c'est le terme qu'on avait utilisé pour ces soldats de la Première Guerre mondiale qui avaient plus de visage. Et d'ailleurs, elle va expliquer qu'elle va bénéficier de cette chirurgie qui a été un peu inventée à ce moment-là. Elle a subi 40 opérations, elle a 40 ans. Ça n'en finit plus, elle a des infections. Enfin, c'est à la fois, elle a une force qui est vraiment palpable à la barre, et en même temps, on sent un peu une forme de désespoir qui est très poignant parce que ça n'en finit jamais. Elle ne peut pas croquer une pomme. Elle dit mon rêve, c'est de croquer une pomme, c'est d'embrasser sans faire peur, c'est de pouvoir, ne serait-ce que boire un café sans que ça dégouline partout. Des choses de la vie de tous les jours. Gaëlle, c'était vraiment un témoignage très poignant.
Timothée Boutry, parmi les témoins à la barre le lundi 11 octobre, il y a Maureen Roussel, 34 ans, une assistante maternelle qui était avec son mari et une amie le 13 novembre 2015 au Bataclan. Elle parle notamment d'un sentiment de culpabilité.
Oui, alors c'est un sentiment qu'on retrouve chez de très très nombreux rescapés qui défilent à la barre. Et Maureen, par exemple, c'est l'histoire d'une de ses voisines au concert qu'elle ne connaissait pas. Elle dit une jeune fille avec des cheveux clairs, un chandail, qu'elle a repéré au début du concert et qui va prendre une balle très vite et qu'elle va le voir allongé à côté d'elle. Et à partir du moment où il y a une fenêtre pour s'extraire du Bataclan avec son mari, elle voit cette jeune fille et elle se dit « Est-ce que je sors, sachant que j'ai une enfant ou est-ce que j'aide cette personne ?» Et finalement, bah, je fais le choix de sortir. Et ça, c'est une culpabilité. Elle n'oublie pas cette jeune fille dont elle apprendra plus tard qu'elle a survécu.
Maureen Roussel est une figure connue pour les rescapés du Bataclan. Elle a fondé l'association de victimes Life for Paris. Elle raconte comment beaucoup de survivants du 13 novembre se retrouvaient régulièrement dans un bar assez proche du Bataclan pour discuter.
Oui, c'est parti un peu comme une bouteille à la mer. Elle était de retour chez elle. Elle s'est dit, non mais ce qu'on a vécu, c'est incroyable. Et puis, on a tous envie d'un peu savoir ce que les uns et les autres ont vécu. Elle a mis un message sur les réseaux sociaux très vite. Et puis, ça s'est fait comme ça, un peu naturellement, spontanément. Et il y a aussi un autre homme qui va témoigner, qui participait à ces apérothérapies, comme il les appelle, qui raconte avoir rencontré sa compagne sur place. Il dit, voilà, on a des vies un peu cabossées, mais on se comprend au moins là-dessus.
Maureen explique que l'attentat a brisé sa vie.
Pendant un an, l'association l'a fait tenir et après elle dit « mon corps, mon esprit ont lâché, donc je suis tombé très 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 bas, ça n'allait pas du tout ». Son mariage a explosé, sa vie professionnelle est devenue chaotique et elle dit « c'est comme si une partie de l'identité se fracturait, comme si on était dans le corps de quelqu'un qu'on ne connaissait pas ». Elle dit qu'en fait le travail le plus difficile là-dedans c'est de faire le deuil de sa propre vie, de ses propres espérances, de sa vie rêvée en fait, et qu'on se retrouve face à un puzzle et à partir de là il faut reprendre des morceaux et reconstruire une nouvelle vie.
Malgré ça, elle veut rester combative.
Elle a cette formule assez forte en disant « Lors de ce procès, j'ai entendu parler de guerriers, mais c'est qui les guerriers? C'est qui les combattants? C'est des gens qui tirent sur des gens désarmés dans le dos, dans une salle de spectacle? Ou alors c'est nous qui, fracassés, brisés, nous levons chaque matin, nous battons pour continuer à vivre? Les guerriers, c'est nous. » Ça, c'est extrêmement frappant et tout ça, évidemment, saisit la cour d'assises.
Timothée Boutry, une scène incroyable est racontée le mardi 12 octobre à la barre par Guillaume. Il avait 21 ans à l'époque, 27 ans aujourd'hui. L'un des trois terroristes lui a parlé et lui a demandé de monter sur la scène.
Il explique que quand les tirs retentissent, d'abord il essaye de se cacher au pied de la scène sous un amas de carton. Son regard finalement croise celui d'un des terroristes, de Sami Mimour en l'occurrence, et il lui dit de monter sur la scène. Et alors, il est un peu frappé par la manière dont Sami Mimour tient son arme. Il dit un peu comme un jouet, j'ai un peu cru à une blague. Et voilà, il lui dit mais vas-y, toi t'es avec nous, lève-toi. Donc il dit je sais pas trop. Et il dit non mais lève-toi ou je te mets une balle dans la tête. Donc Guillaume obtempère et se retrouve face à face avec Sami Mimour. Et il dit qu'à ce moment-là, il y a un des terroristes qui se trouve déjà sur le balcon, qui le voit, qui lui dit « Non mais qu'est-ce que tu fais debout, toi je vais te tirer une balle dans la tête ». Et que là, Sami Mimour répond à son camarade « Non c'est bon, t'inquiète, il est avec nous ». Et lui-même, Guillaume, dit « Et ben à un moment, j'ai dit « Non mais je suis avec vous ». Donc il va avoir cette formule-là. Et c'est comme ça qu'il se retrouve face à face avec Sami Mimour, qui lui donne un ordre. Il lui dit, en parlant d'un spectateur qui est blessé, va voir ce fils de pute et va me dire s'il est mort ou pas. Et donc il se demande si vraiment il compte se servir de lui comme d'un auxiliaire. Est-ce que c'était par cynisme? Est-ce que c'était parce qu'il avait vraiment besoin de moi? Encore aujourd'hui, il se pose la question.
Que se passe-t-il ensuite?
Ensuite, Guillaume dit qu'il voit deux ombres rentrer à l'intérieur du Bataclan et que très vite, il comprend que ce sont des policiers. Il s'agit en fait du commissaire de la BAC et de son équipier. Ce sont eux qui vont viser Sami Mimour et l'atteindre. Et lui, il dit d'ailleurs, tout de suite, je vois qu'ils sont en train de viser et je vois les éclairs qui partent de leurs armes vers l'homme qui se trouve en face de moi. À partir du moment où Sami Mimour a été touché, il s'affaisse au sol et il déclenche sa ceinture explosive. Évidemment, énorme détonation. Lui, Guillaume, n'est plus là puisqu'il a sauté par-dessus la scène, il est en train de s'enfuir. Il ressent cette explosion, mais il ne sait pas au départ exactement ce qui s'est passé puisqu'il n'a pas assisté, mais très vite, il comprendra que c'est le terroriste qui s'est fait exploser.
Pascal Aigret, le policier qui a tiré sur le terroriste, est un commissaire de la brigade anticriminalité nuit de Paris. Le 22 septembre, il avait décrit cette scène de son point de vue.
Quand ils arrivent vers le bar, ils entendent une voix. C'est la voix de Samy Amimour qui est sur scène et qui ordonne donc à Guillaume « couche-toi au sol ». Et il voit l'otage résigné commencer à s'agenouiller. Ils se rendent compte qu'ils n'ont que quelques secondes pour agir. Et c'est là qu'en fait, il dit, le policier de la bague de nuit, « je fais comme au stand de tir, je m'appuie sur une petite rambarde, j'épaule, je vise et je tire ». Seulement quelques coups, mais c'est ça qui va en fait inciter Samy Amimour à déclencher sa ceinture explosive et qui va faire basculer en fait toute la prise d'otage.
À ce moment-là, le policier pense que Guillaume est le seul survivant.
Oui, il a cette expression incroyable de dire qu'en fait, quand il rentre dans le Bataclan et qu'il voit cette fosse avec des corps enchevêtrés parfois sur plus d'un mètre de hauteur, la question qui se pose, c'est mais comment ont-ils fait pour tuer autant de gens en aussi peu de temps ? Et donc, il pense que celui qui est sur la scène et qui est menacé par le terroriste est l'un des derniers survivants.
Louise Colcombé.
L'intervention du commissaire de la BACNU en fait fait basculer la soirée parce que les deux autres terroristes qui voient leurs collègues exploser en bas sont un peu décontenancés et du coup ils vont arrêter de tirer sur la fosse et ils vont se réfugier dans un couloir avec des otages.
L'un des témoins tient à se montrer optimiste le mercredi 13 octobre, Timothée Boutry, prénommé François Dominique. Il est avocat, il avait 30 ans au moment de l'attaque et le soir de la tuerie, il était seul au Bataclan. Il pense que ça l'a aidé.
Oui, c'est un témoignage qui détonne un petit peu dans la masse de tous ceux qu'on a pu entendre. Lui dit « la vie est belle en fait, je m'en suis sorti en un seul morceau, j'ai pas été blessé physiquement, finalement ça va bien quoi ». Alors il explique qu'il était tout seul parce que sa femme devait initialement l'accompagner, mais elle avait perdu sa grand-mère peu de temps auparavant et donc elle n'était pas venue. Et il dit « moi j'ai agi en mode égocentré, je pensais qu'à moi et si j'avais eu mon épouse, j'aurais peut-être pas été aussi agile, aussi impliqué pour pouvoir m'extraire aussi facilement de la salle ». Et il dit « moi je pense que ça m'a sauvé et c'est comme ça que j'ai réussi à m'enfuir ».
Qu'est-ce qu'il fait juste après s'être enfui du Bataclan ?
Il prend un taxi, il rentre chez lui. Et il décide de ressortir tout de suite dans Paris, un peu pour conjurer ce qui vient de se passer, pour pas rester enfermé là-dedans. Et c'est sa manière de passer outre l'attentat. Et il dit aussi, on avait le projet avec ma femme de quitter Paris, enfin avec ma fiancée. Et là, je lui conjure de partir. Et le fait est qu'ils ont effectivement quitté Paris pour s'installer en province.
Il y a un moment, à la barre, où François Dominique semble quand même rattrapé par l'émotion.
Parce que depuis l'attentat, il a eu un enfant. Et là, il dit, moi, je pense à tous ces parents qui viennent témoigner de la perte d'un enfant. Et il dit, moi, maintenant, depuis que je suis papa, je n'ose imaginer ce que peut être la perte d'un enfant. Et là, il se met à sangloter, à pleurer. Et il dit, voilà, moi, j'ai évidemment infiniment de respect et de compassion pour tous ces hommes et ces femmes qui ont perdu des enfants lors de ces attentats. Et il paraît très fort, il est très fort. Il s'en est sans doute mieux sorti que d'autres, mais il n'en est pas sorti indemne non plus, évidemment.
Pascal Aigret, le lendemain, la cour d'assises écoute deux jeunes hommes de 21 et 17 ans, Nino et Marius. Avec leur petit frère Lazare, ils ont perdu leur papa quand ils avaient 15, 11 et 6 ans. Leur père Nicolas est mort à 43 ans, assassiné dans la fosse du Bataclan.
Il raconte vraiment avec des mots bruts les sentiments qui les ont traversés. Et est-ce qu'il est normal à 11, 15 ans de ressentir de la colère, de la rage, de la haine ? Ils ont encore des troubles très importants aujourd'hui. Ils sont sous antidépresseurs, ils sont suivis par des psychiatres. Malgré tout l'amour et les précautions que leur entourage leur apporte, on sent à quel point ces enfants disent « le 13 novembre j'étais un enfant et le 14 novembre j'en étais un autre ». Il y en a un qui exprime ça ainsi, il dit « je me demande quel enfant je serais devenu si mon père n'était pas mort au Bataclan ».
Le mercredi 20 octobre, vous retranscrivez dans Le Parisien le témoignage de deux amoureux qui viennent à la barre, l'un après l'autre, Hans, 43 ans, et Lou, 32 ans. Ils avaient 37 et 26 ans en 2015. Ils étaient un jeune couple.
On voit qu'ils ont vécu chacun le 13 novembre et l'attaque de manière complètement différente. Lui a été grièvement blessé, à la fois par une balle qui lui a traversé tout le corps et s'est logée dans les poumons, et par une onde de choc d'une autre balle qui lui a fracassé l'arrière du crâne. Donc il reste sur place. Et elle, qui a mis des talons, une jupe, un chignon, qui par ailleurs pratique l'ultra-trail et qui sait courir, n'est pas blessée et va réussir à sortir du Bataclan. Et ensuite, elle va finir par le chercher pendant 2 jours. L'hôpital cherchait aussi de son côté à identifier ce blessé. Et finalement, Hans est vivant, il se retrouve. Et on sent beaucoup d'amour dans ces témoignages, même s'ils sont l'un après l'autre. Ils ont voulu témoigner séparément presque pour respecter le 13 novembre de l'autre. Et elle a cette phrase, Lou, qui est de dire « On a réussi à rester soudés et à se reconstruire pas à pas ensemble ».
Louise Colcombé, quelques jours plus tôt, le lundi 18 octobre, vous avez signé un article sur ces dizaines de gestes d'entraide, d'humanité qu'il y a eu pendant la tuerie, même si bien sûr il n'y a pas eu que ça.
On a ces témoignages de gens qui disent qu'ils en sont désolés d'ailleurs, qu'ils ont dû marcher sur des gens pour s'en sortir, pour sauver leur peau. Certains racontent qu'ils se sont fait marcher dessus aussi et qu'ils leur en veulent pas, parce qu'ils auraient fait sans doute la même chose. Mais on a aussi tous ces petits témoignages qui sont parsemés d'instants d'humanité, d'entraide. Une main qui prend une autre pour soutenir quelqu'un qui est blessé jusqu'à la libération par la BRI. Ça va être des regards qui sont échangés, des gens qui se sont inquiétés beaucoup de savoir si telle ou telle personne qui était à côté d'eux pendant le concert s'en est sortie. Des gens qui ont repris contact entre eux. Voilà, quelqu'un qui protège un autre de son corps en se disant bah, « peut-être que je vais prendre les balles à sa place et puis ils verront pas la personne qui est derrière moi ». On comprend qu'en fait, ce jour-là, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraternité qui s'est exprimée. Et ça, c'est aussi très important de l'entendre au milieu de toute cette horreur.
À la fin de cet article, Louise, vous citez un rescapé qui compare les survivants du 13 novembre à une famille.
Parce qu'en fait, cette solidarité s'est exprimée pendant l'attaque, mais aussi après, puisqu'ils ont tous ce sentiment de décalage que personne ne peut les comprendre, à part évidemment ceux qui étaient avec eux et qu'ils ont envie de retrouver parce que ce jour-là, ils ont vécu la même chose, que parfois ce sont des gens qui se sont aidés l'un l'autre, ils se sont retrouvés via les réseaux sociaux, etc., et notamment via les associations. Et c'est Nicolas qui raconte très bien comment ça l'a aidé. Il dit on forme une famille cabossée dans laquelle on peut tous se comprendre et compter les uns sur les autres. Et il dit c'est à la fois terrible et merveilleux d'aimer autant des gens qu'on n'aurait jamais été amené à rencontrer autrement.
Merci à Pascal Aigré, Louise Colcombé et Timothée Boutry. Je précise que ce podcast a été enregistré le 21 octobre. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast quotidien du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.